Pontus.
Merci Sébastien Duhamel. À tout à l'heure. RFI Matin à suivre dans les prochaines minutes. Notre invité Afrique, le journaliste Thomas Onfnung, pour son livre « Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique ». Une enquête sur le bombardement du camp militaire français de Bouaké en Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Reportage en Côte d'Ivoire. On parle d'une seconde chance pour les jeunes filles enceintes. Afrique Économie en République centrafricaine. La ville de Zaoua fait peau neuve grâce à la relance des activités minières. Et avant le journal, Maman se demande « Comment va président fondateur ?» Et tout de suite en direct, les sports avec Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le football au programme, place à la trêve internationale jusqu'à mardi prochain et donc à la course à la CAN. Au programme, les 3e et 4e journées de qualification au tournoi continental. Ce sera dans un peu plus d'un an au Maroc.
Oui, d'ailleurs si vous ne savez pas encore où aller en famille pour les fêtes en 2025, un petit conseil, ça fait agence de voyage. Zou, direction le royaume chérifien, ses stades et son atlas. 47 sélections en rêve, les Marocains étant déjà qualifiés d'office. Bref, tout ça pour vous dire que d'ici mardi, 48 matchs aller-retour sont programmés, ça n'est pas rien. Ça devait commencer dès ce mercredi, dites donc, mais finalement, on s'y habitue. Hein. Namibie-Zimbabwe a été déplacé à demain 13h TU à Johannesburg.
6 rencontres donc en tout ce jeudi.
Parmi lesquelles aussi Ghana-Soudan, et si pour certains dans cette huitaine, il y aura peut-être déjà une qualification à valider, pour d'autres ce seront surtout des espoirs à préserver. C'est le cas du Ghana. Un point en deux matchs jusqu'ici pour les Black Stars. Pas terrible. Il leur faut donc impérativement dominer le Soudan dans cette double confrontation. Match aller à Accra, donc dans un stade national homologué in extremis avec notamment une nouvelle pelouse que les Ghanéens retrouvent avec plaisir depuis 48 heures. On écoute le milieu de terrain de l'AJ Auxerre en France, Elisha Oussou avec Tété Hadji.
À Koumassi, le terrain n'était pas très bon, donc franchement on est content de l'effort que toute l'équipe sportive a fait pour qu'on joue sur un très très bon terrain. Mentalement, on sait que ça va être deux rencontres très importantes pour nous. On savait qu'en venant ici, ça allait être des matchs avec une forte pression et on va tout faire pour gagner ce match. On est content d'être là, on est footballeur, on peut qu'être content d'être au pays à Accra. Vous avez vu tous les fans qui étaient là aujourd'hui, donc ça nous donne la force.
Elisha Owusu, on l'a compris, footballeur content. Ghana-Soudan, 16h TU ce jeudi.
On parle rugby à présent, Olivier, avec un joueur camerounais en vue dans le championnat de France.
Né à Yaoundé, il y a 25 ans, il est ailier au Castres Olympique, l'actuel 3e du top 14, l'élite française. Christian Mbadiang crève l'écran pour ses premiers pas à ce niveau. Sa vitesse, sa puissance en font déjà l'une des révélations du début de saison. Et pourtant, rien ne le prédestinait vraiment à manier le ballon ovale, Thomas de Saint-Léger.
Il suffit parfois d'une action pour marquer les esprits.
Attention peut-être au retour de Christian Mbadiang. Oh le retour héroïque.
L'image a fait le tour des réseaux. C'était début septembre, jour de baptême pour Christian Mbadiang. Premier match en top 14, premier coup d'éclat. Une course supersonique pour rattraper un adversaire lancé vers l'essai.
Cette action-là, je me suis dit, si je ne tente pas, personne d'autre ne va le faire. Ça a donné, un coup de foudre à l'équipe.
Et la foudre frappe deux fois. Quelques minutes plus tard, Mbadiang, encore, marque l'essai de la gagne. Le monde du rugby découvre cet ailier rapide et puissant, né au Cameroun, élevé en Afrique du Sud, où il passe de l'athlétisme au rugby, sur les conseils d'un ancien néant de lycée.
Il voyait que je courais beaucoup. À chaque fois que je me faisais plaquer, je n'aimais pas. Du coup, j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est là où l'amour pour le rugby a commencé.
Une histoire poursuivie en France. Deuxième division d'abord à Nevers. 3 saisons, 29 essais, puis Castres donc. La carrière en club de Christian Mbadiang est bien lancée. Et en sélection alors, les Bleus ou l'équipe nationale camerounaise en pleine reconstruction. Toutes les portes sont ouvertes, dit-il. Mais pour l'instant, un seul objectif, confirmé avec Castres.
Confirmé dès samedi à Pau pour le castrais camerounais. C'était Thomas de Saint-Léger.
Merci à vous Olivier Pron et à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une du prochain journal, le Liban, à nouveau cible de bombardements israéliens. Les localités de Baalbek, de Tyr et les quartiers sud de la capitale Beyrouth, bastion du Hezbollah, ont été visés. Le Hezbollah annonce vouloir intensifier en représailles ses tirs de roquettes, notamment sur Haïfa, si Israël continue de bombarder le Liban. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, menace les Libanais. Il leur promet le même sort qu'à Gaza si le Hezbollah continue de trouver du soutien dans la population. Déclaration qualifiée de provocation par le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot dit craindre le chaos au Liban si Israël met ses menaces à exécution. On en parlera avec Paul Ralifé, notre correspondant à Beyrouth, dès le début du prochain journal. Également à la une, les États-Unis et la Floride qui se préparent et attendent l'arrivée de Milton. Milton, c'est un ouragan repassé en catégorie 5, la catégorie maximale. Il devrait toucher terre dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui pourrait être la pire tempête à frapper la Floride en un siècle, a dit le président américain. Reportage en Côte d'Ivoire. En un an, le nombre de grossesses précoces a monté en flèche, plus 26% pour les grossesses en milieu scolaire. De septembre 2023 à juin 2024, 4600 cas ont été enregistrés chez des adolescentes âgées à peine de 12 à 18 ans. Derrière ces chiffres du Conseil national des droits de l'homme, il y a des drames humains. La grossesse marque bien souvent la fin de la scolarité, l'abandon des rêves des jeunes filles. Une ONG notamment leur vient en aide pour leur offrir une nouvelle chance. Reportage à Abidjan d'Abdoulaziz Diallo.
C'est en classe de 4e, à peine un mois après le début des cours, que Falène, alors âgée de 17 ans, tombe enceinte.
Quand il a contacté la grossesse, il m'a dit que c'est pas lui qui est parti chercher le père de mon enfant ailleurs. Donc moi, je n'ai plus rien dit, je ne suis plus rentrée en contact avec lui. Un beau jour, quand il me rappelle, puis il me dit si c'est vraiment lui qui m'enceintait, que d'enlever la grossesse, parce qu'il ne va pas s'occuper de ça. Maintenant, si je m'entête à garder la grossesse-là, lui s'est désengagé.
Déterminée, elle essaie de continuer ses études. Mais entre les difficultés de la grossesse, l'incompréhension de sa famille et les moqueries de ses camarades, elle est contrainte de quitter l'école. Pour subvenir aux besoins de son enfant, elle enchaîne les petits boulots. Quelques mois après la naissance de son fils, Falène rencontre l'ONG ProKids.
Il m'a appris à faire la coiffure. Après la formation, ils nous ont remis une somme de 100 000 francs avec quelques matériels. J'ai pris ça et me suis débrouillé pendant 2 ans avec. En décembre, là, je vais ouvrir un nouveau coin. Je suis en train d'épargner encore de l'argent.
Comme Falène, environ 1000 jeunes filles mères à Abidjan et à l'intérieur du pays bénéficient du programme d'accompagnement de l'ONG ProKids, fondé en 2017. Cette initiative a valu à sa présidente, Traoré Aïcha, le prix national d'excellence. Son objectif principal, offrir une seconde chance à ces adolescentes qui quittent prématurément le système scolaire.
Tout commence chez nous avec la formation, la prise de conscience de cette deuxième chance. Une fois que cette étape est garantie, on va maintenant vers l'étape de financement ou de l'achat d'équipement. Donc c'est dépendamment du besoin de la fille. Nous, on va l'accompagner derrière sur la gestion de son commerce, comment il faut qu'elle épargne et voir ce qu'on peut apporter de plus à chaque fois.
Cette initiative est saluée par le sociologue Bini Kofi Roland, spécialiste des questions éducatives. Selon lui, il faut agir en amont pour résoudre le problème.
Il ne faut pas attendre que les grossesses surviennent. Il faut déjà associer à notre système éducatif les formations qualifiantes qui vont occuper ces filles-là et leur apprendre à gagner de l'argent.
Le gouvernement ivoirien a lancé en 2013 une vaste campagne de sensibilisation intitulée « Zéro grossesse à l'école en Côte d'Ivoire », ciblant à la fois les jeunes et leurs familles. L'Institut de formation et d'éducation féminine prend en charge notamment les jeunes filles déscolarisées. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
À Abidjan, il est 4h51, 6h51 à Paris. Notre invité Afrique a écouté dans moins d'une heure sur RFI, c'est le journaliste enquêteur Thomas Hoffnung, chef du service international au journal La Croix. Il publie ce mercredi chez Fayard « Boaké, le dernier cold case de la France-Afrique ». 20 ans après, il rouvre le dossier du bombardement du camp militaire français de Boaké. C'était le 6 novembre 2004 en Côte d'Ivoire. La frappe avait tué 10 personnes, dont 9 soldats français. Qui a commandité ce bombardement? Le mystère demeure, mais notre invité explique d'abord pourquoi il ne croit pas à l'erreur de tir.
Alors je dois dire que j'y ai cru à un bon moment jusqu'à ce que j'aille à Abidjan pour essayer de rencontrer un certain nombre de protagonistes de l'époque et qui, je dois dire, se sont tous défilés quand j'ai essayé de les rencontrer. Ce qui a suscité chez moi une certaine forme de suspicion en me disant peut-être que effectivement ils ont quelque chose à cacher, toutes ces personnes, et peut-être que ce qu'ils ont à cacher, c'est qu'ils ont fait une erreur, mais non pas de tir, mais une erreur de ciblage, c'est-à-dire qu'ils pensaient cibler les rebelles, pensaient peut-être que les rebelles se cachaient dans le camp français, ça a été dit par certains, notamment par l'ancien l'ambassadeur Jean-Marc Simon d'ailleurs à votre micro au moment du procès. Il me semble que c'est sans doute la thèse la plus vraisemblable. Ils ont peut-être cru vraiment qu'ils bombardaient les rebelles, mais peut-être des rebelles cachés par les Français.
Alors si on retient l'hypothèse de cette erreur de ciblage, qui aurait pu donner cet ordre ? Est-ce que c'est au niveau de Laurent Gbagbo lui-même ?
Je ne le crois pas. On ne peut pas exclure, je crois, que ce soit un niveau subalterne, peut-être à Yamoussoukro, où était l'état-major de l'opération Dignité, peut-être un officier qui a eu ce renseignement et qui s'est dit, avec cette frappe, on va emporter la victoire, on va montrer que les Français sont complices des rebelles, et on en aura fini une bonne fois pour toutes, et avec les rebelles, et avec les Français.
Et vous évoquez le nom du lieutenant-colonel Patrice Wey, qui commandait les opérations aériennes ivoiriennes à Yamoussoukro.
Oui, alors il a été condamné par la justice française, par contumace. Son avocat, curieusement, lors du procès à Paris, a fait savoir que son client, donc Patrice Wey, était totalement hors de cause dans cette affaire et qu'il était prêt à témoigner. J'ai essayé de le rencontrer à Abidjan et curieusement, son avocat m'a dit qu'il avait perdu sa trace. Là aussi, je pense que peut-être il n'avait pas spécialement envie de parler.
Le journaliste Thomas Hoffnung pour son livre Boisqué, le dernier cold case de la France-Afrique, au micro de Christophe Boisbouvier, tout à l'heure. Afrique Économie en République Centrafricaine, dans le village de Zaoua, 70% des jeunes vivraient de l'exploitation minière artisanale. Il y a environ 3000 habitants ici et le travail minier pèse lourd. La vie économique locale tourne autour des mines d'or de la région. Reportage de Rolf-Steph Domialeux.
Au cœur de ce chantier minier, il est difficile de voir le fond des puits. Les ouvriers descendent dans ces galeries souterraines d'environ 20 mètres avant de passer sous des blocs de roches de plusieurs tonnes. Ici, le grincement des machines, pelles ou épioches ne s'arrête jamais. Une centaine d'artisans miniers comme Zéphirin y travaillent du matin au soir pour subvenir aux besoins de leur famille.
On vend notre or aux collecteurs et aux coopératives locales. Certains acheteurs viennent de la capitale, d'autres des régions du pays. Ici, le prix du gramme d'or varie entre 30 000 et 35 000 francs CFA.
Une fois l'or extrait en quantité suffisante, les exploitants miniers vendent ce qu'ils ont extrait au bureau d'achat installé dans la ville de Zaoua. Le trajet fait 15 km, mais nous avons mis une heure pour y arriver à cause du piteux état des routes.
Ces dernières années, cette route n'a pas été réhabilitée à cause de l'insécurité. À Zaoua, la plupart des édifices publics ont été pillés au temps fort de la crise. Maintenant, la paix est revenue. On veut reconstruire notre ville grâce aux activités aurifères.
Aujourd'hui, à Zaoua, presque tous les édifices publics ont fait peau neuve et les lieux de commerce poussent comme des champignons. Assis sur une chaise à l'entrée de son motel, Patrice Eva Yandobé, président des coopératives locales, est déterminé à changer les choses.
J'ai construit ce motel il y a un an grâce aux activités minières. J'ai une vingtaine d'employés qui gagnent de quoi s'occuper dignement de leur famille. Je suis en train de construire un centre de santé, une école et une agence de voyage qui seront opérationnelles très bientôt. On ne doit pas tout attendre du gouvernement.
Ici, ce sont les exploitants miniers qui font vivre la ville. Comme beaucoup, Fernand possède plusieurs boutiques de commerce général.
Le travail de l'or m'a donné plusieurs opportunités. J'ai 3 boutiques spécialisées dans la vente des pièces détachées, des produits de première nécessité et la vente des panneaux solaires. Je possède également une compagnie de transport. Le travail de l'or est difficile, mais je gagne beaucoup d'argent que j'investis pour le développement de ma communauté.
Selon les autorités locales, 70% des habitants vivent des activités minières. Avec l'amélioration des conditions sécuritaires, le ministère des Mines facilite aujourd'hui la délivrance des permis d'exploitation aux coopératives locales. Rolf-Steve Domialeux, de retour de Gaga, RFI.
Vos prochains rendez-vous éco dans RFI Matin, les matières premières, sans le Mali ni le Burkina, le prix des amandes de karité atteint des records. Et puis aujourd'hui, l'économie iranienne suspendue au risque de guerre avec Israël. On revient au Proche-Orient dès le début du prochain journal, dans 4 minutes. Mais tout de suite, Maman, le sourire du jour. Maman, au Gondwana, il est très impoli de demander des nouvelles de la santé de président fondateur.
Oui, dans la vie, les règles de bienséance font que la curiosité d'un gentleman a des limites. Il ne pose pas certaines questions en société. Par exemple, à une dame, mon ami, tu ne demandes jamais son âge, à moins d'être un indécrottable goujat. À un boss, tu ne demandes jamais combien il gagne. Ça peut être très très dangereux pour toi. Mais sache qu'à part ça, eh bien, en très très démocratique république, rien n'est interdit, tout est permis. Tu peux tout dire, tout faire, tout écrire, tout chanter, tout dessiner, tout publier. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh ben, ça dépend. À toi de voir, mon ami. Ça dépend de toi, hein. T'es majeur et vacciné. Ça dépend si ce que tu as à écrire, chanter, dire, eh ben, si ça intéresse quelqu'un. C'est-à-dire, si ce quelqu'un est prêt à venir donner ses noms, prénoms, adresses, se mettre à côté de toi à midi pile sur la place publique et dire que ce que tu as écrit, publié ou dit, s'il est d'accord avec ça, lui. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à n'importe quel gondouané que tu croises. Tu poses la question la plus sensible qui soit la plus intime, c'est-à-dire comment tu vas? Eh ben, c'est-à-dire comment il a dormi, s'il a bien mangé, s'il n'a pas fait de cauchemar, s'il n'a pas mal quelque part, si la crise n'est pas trop dure, le boulot, la famille, les voisins, les moustiques, les délestages, etc. Comment il va, quoi? Et il te répondra toujours avec le sourire parce que vous êtes dans un pays libre, la très très démocratique république. Et cette question, tu peux la poser 10, 20, 100 fois, t'auras toujours la même souriante réponse. Oui, ça va bien. Et toi? Bon, je sais que tu es en train de te demander si vraiment cette question, tu peux la poser à n'importe quel gondouanais. Eh ben, ça dépend. Par exemple, tu peux pas la poser à notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur. Tu peux pas dire « Comment ça va, président fondateur ?» D'abord, tu vas le croiser où pour lui demander ça? Il est au palais, t'es au quartier. Il est dans sa limousine, tu marches dans la poussière. Il est dans son jet, tu le regardes à la télé. De toute façon, même si par le plus grand des improbables hasards, tu tombes nez à nez avec notre leader bien-aimé, crois-tu que Sergent s'en fout la mort des autres te laissera lui demander comment ça va? Donc, reste tranquille. Ça te regarde pas si président fondateur va bien ou pas. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ta santé à toi. Lui, il s'occupe de la sienne. S'il part se faire soigner là-bas, loin du pays, c'est justement pour ne pas que tu t'inquiètes pour sa santé. Et si tu insistes, tu seras inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à l'unité nationale, à la stabilité et au bon fonctionnement des institutions. Donc, arrête de demander aux gens comment ils vont. Tu n'es pas docteur, hein? À demain.
À demain, maman.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Pour entendre le son des tambours à fente du Vanuatu, des chants du Niger ou la musique qui accompagne le dernier repos dans les plaines du Kazakhstan, direction le musée du Quai Branly, car la musique est au cœur de l'ethnographie. Le musée s'est donc doté d'une nouvelle bande-son.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Rendez-vous tous les vendredis pour éclairer le travail de la rédaction et des équipes des magazines de RFI à l'antenne comme sur le numérique. Nous répondons à vos questions pour vous expliquer les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 19h41 sur RFI.